Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Père, que ton esprit de lumière et de vérité éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans toute la vérité qui est Jésus-Christ, ton Fils. Que ton esprit de sainteté nous rende obéissants à sa volonté et nous donne ainsi la victoire dans tous nos combats. Que ton esprit d'amour, de joie, de paix brille en nous, afin que nous puissions éclairer ceux que tu mets sur notre route. Amen. J'ai choisi un passage dans le premier chapitre de Jean, de l'évangile de Jean, au chapitre 1, donc, et les versets 11 et 12. La parole est venue dans son bien propre et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pendant longtemps, j'ai lu ces versets en pensant, bon, il y a une catégorie de gens qui reçoivent ou qui ne reçoivent pas la parole, puis il y a une autre catégorie qui reçoit la parole. Or, ce n'est pas ce que dit ce texte. La parole est venue dans son bien propre, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il s'agit donc, dans ces deux versets, des mêmes personnes. Elles ne reçoivent pas la parole, et il y a les personnes qui la reçoivent dans le même groupe. Comment est-ce que c'est possible de nous dire deux choses ainsi contradictoires dans deux versets qui se suivent? Eh bien, l'Évangile veut nous faire comprendre que nous avons tous participé au refus. Que quand la parole vient, eh bien, elle n'est pas reçue. Et que nous devons donc avoir cela en tête quand nous lisons l'Évangile. Saint François Xavier a écrit sur ce texte: il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens, nous en sommes. Cela nous est dit non pas pour nous accabler et nous culpabiliser, mais pour que de notre refus même sortent les preuves de la lumière et de la vie. L'Évangile de Jean particulièrement nous montre ce refus qui amène donc Jésus jusqu'à la croix. Et en même temps, à la croix se manifeste l'acceptation de Dieu. Les hommes disent non, et Dieu dit oui à l'homme, au moment même où l'homme lui dit non. Nous avons ça développé tout au long de l'Évangile de Jean, le refus et l'acceptation. Par exemple, à la fin du chapitre 12 dans Jean, il y a une première conclusion de tout le ministère de Jésus. Cette conclusion, je vous lis une partie au verset 39 et au verset 40, aussi ne pouvait-il croire parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Pour ceux qui connaissent la Bible, Ésaïe a vu effectivement la gloire du Dieu Tsebaoth, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, comme on traduit le mot Tsebaoth souvent par tout-puissant. Il a vu ce Dieu dans le temple, mais la gloire de Dieu elle était sous la forme d'un pan, un pan de manteau, on ne précise pas de quoi, mais un pan qui remplissait le temple. Et les séraphins, il les a entendus adorer. « Saint, saint, saint » disait-il l'un à l'autre. « Saint, 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 le Seigneur Tsebaoth, la plénitude de la terre et sa gloire. » Voilà la gloire qu'il a vue, et l'évangile de Jean nous dit, eh bien, il a vu Jésus sur la croix. C'est une façon de nous parler de Jésus, ces images, ou cette vision plutôt, parce que ce ne sont pas des images, ce sont des choses réelles, que Ésaïe a vu dans le temple. Donc la gloire de Jésus est manifestée au moment où l'homme lui a dit non. Et en même temps, l'évangile de Jean nous dit, il y en a quand même au pied de la croix qui, eux, n'ont pas dit non. On trouve ça dans Jean 19, ou plutôt qui ont, après avoir dit non, ils ont dit oui. Jean 19, verset 25, « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. » Puis plus loin, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Donc, les refus de l'être humain, les refus des Juifs amènent Dieu à manifester toujours plus fort sa gloire. Dans certains milieux chrétiens que j'ai fréquentés, on insiste beaucoup sur le fait que les gens doivent prendre un engagement pour Jésus. On fait appel à leur volonté. Et il y a un danger à insister ainsi sur la volonté humaine qui doit prendre une décision devant l'Évangile. Parce que le danger, c'est de faire en sorte que Dieu ainsi soit prisonnier de notre oui pour agir. Qu'il ne puisse pas agir lorsque nous on dit non. Or l'Évangile nous montre comment Dieu agit. Même quand l'homme dit non, même quand Israël rejette son Messie, Dieu agit encore. Alors, notre oui est porté par le oui de Dieu. Paul exprime cela dans 2 Corinthiens 1, verset 20. Toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans la personne du Fils de Dieu, le Christ Jésus. Aussi est-ce par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Je répète ce verset, toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans la personne du Fils de Dieu, le Christ Jésus. Aussi est-ce par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Donc quand nous avons dit oui au Seigneur, sachons bien qu'il y a eu préalablement une œuvre de Dieu en nous pour que ce oui vienne sur nos lèvres. Cette œuvre de Dieu, j'ai déjà prêché là-dessus, nous l'avons dans cette prière de Jésus, dans Jean 17, cette œuvre de Dieu consiste à nous avoir donné à son Fils de toute éternité. Jésus l'exprime dans Jean 17, dans les premiers mots de sa prière. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Vous remarquez dans ces paroles la redondance du verbe donner. Revient, il est répété souvent. Remarquez donc que Jésus ne dit pas dans sa prière « afin que je donne la vie éternelle à tous ceux qui ont dit oui ». C'est pas ça qu'il dit. Il dit que Dieu, il demande à Dieu d'être, que Dieu le glorifie pour qu'il puisse lui donner la vie à tous ceux que Dieu lui a donnés. C'est parce que nous avons été donnés par le Père au Fils que nous découvrons le don de la vie éternelle. Et c'est très beau de voir que c'est dans le contexte d'une glorification mutuelle entre le Père et le Fils que tout cela s'accomplit. Jésus a glorifié son Père. C'est raconté au chapitre 12 de Jean. Père, glorifie ton nom. Au moment où son âme est troublée, il demande, Père, glorifie ton nom. Et là maintenant, dans Jean 17, il demande, maintenant Père, glorifie-moi. Pour que je puisse encore plus te glorifier. Vous voyez que c'est à l'intérieur d'une relation entre le Père et le Fils que notre salut s'est décidé. Et ça ne s'appuie pas sur notre volonté, mais sur une œuvre que Dieu a faite de nous mettre dans le Fils, dans son Fils. Nous vivons une époque où les chrétiens se rendent compte qu'ils ne vivent plus en terre chrétienne. On pensait que l'Europe était une terre chrétienne, mais ce n'est plus le cas. Je fais partie d'une communauté, l'Union de prière, qui pense même que ça fait 100 ans que nous ne vivons plus dans une terre chrétienne. Depuis que des millions de chrétiens se sont entretués pendant la Première Guerre mondiale, ici en Europe, en demandant même à d'autres pays de nous fournir des morts, enfin des soldats qui vont mourir dans cette guerre. On pouvait encore avoir autrefois l'impression qu'on pouvait faire pression lourde ou légère sur les gens pour qu'ils croient en Jésus. Parce qu'on était dans une Europe qu'on disait chrétienne. Et l'Église s'est gravement rendue coupable au cours des siècles, en utilisant parfois même la violence physique et la torture pour obliger les autres à croire en Jésus. Même Luther et Calvin n'ont pas échappé à cette déviance. Ils ont utilisé parfois la violence pour obliger à croire. Or, nous voyons dans l'Évangile que toute pression, quelle qu'elle soit légère ou lourde, qu'elle soit violente ou douce, aucune pression sur un être humain ne peut l'obliger à croire en Jésus. Ça provoquera exactement le contraire, l'incrédulité. On enlève par la pression, on enlève à une personne la possibilité de croire. Car la foi ne vient pas d'une pression extérieure que venant de l'être humain ou de ce monde. C'est se rendre compte un jour que nous avons été mis par Dieu dans le Fils. Et nous ne pouvons pas nous en rendre compte ailleurs. que devant la croix, qui a été utilisé comme un moyen de pression sur les gens, mais la croix est tout sauf cela. Elle n'est pas un moyen pour faire pression sur les gens. Et ceux qui l'ont le mieux annoncé, ce sont les apôtres qui étaient eux-mêmes crucifiés, enfin, on peut dire persécutés, mis à mort. Celui qui nous a écrit le plus de choses sur Jésus-Christ et les plus belles louanges, c'est l'apôtre Paul, et c'est un de ceux qui a été le plus et le plus régulièrement persécuté, mis en prison. D'ailleurs, c'est d'une prison qu'il a écrit l'épître aux Éphésiens, qui commence par une des plus belles louanges qu'on a dans la Bible. Je lis juste le début, Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. » Et ça continue. Voyez, Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Et Paul écrit cela à une église, aux chrétiens, puisque nous avons l'épître maintenant dans notre Bible. Il écrit à nous aujourd'hui. Mais il écrit à partir de quel endroit? D'une prison. Il n'a plus la force humaine. Il n'a plus de pouvoir humain. Tout lui a enlevé au niveau humain comme pouvoir. Mais qu'est-ce qui nous apprend de beau sur ce que Dieu a fait? Il nous a bénis avant la fondation du monde. Et dans cette prière, dans Jean 17, Jésus parle de ce qui se passe avant la fondation du monde. Il demande à son Père, « Glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » C'est dans Jean 17, verset 5. Et nous étions là. Dans cette gloire qui était avant que le monde fût, Dieu nous a mis, nous a choisis dans le Christ. Nous étions déjà dans le projet de Dieu. Voilà pourquoi nous ne sommes pas désespérés devant la persécution généralisée des chrétiens aujourd'hui. 150 à 200 millions vivent dans l'angoisse, dans la menace, et meurt aussi, parce que Dieu utilise cette non-puissance, ce non-pouvoir des chrétiens pour se glorifier comme il l'a utilisé à la croix, la non-puissance de Jésus crucifié pour montrer son amour, pour se révéler comme le Père qui adopte des fils chez les Juifs, chez les Arabes, chez les Africains. Je crois que c'est eux qui viendront évangéliser l'Europe. Et ça a déjà commencé. Maintenant, je reviens au versets 11 et 12 dans Jean 1. La parole est venue dans son propre bien. Qu'est-ce que c'est, ce propre bien? Eh bien, c'est là. C'est le peuple juif. Parce que c'est eux qui ont donné toute la Bible. Donc c'est eux, le propre bien de la parole. Elle est venue dans le monde, on nous dit au verset 10, et après on nous dit, elle est venue dans son propre bien. C'est eux qui avaient le temple à Jérusalem avec la présence de Dieu, la parole de Dieu présente dans la gloire. Eh bien, les Juifs ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ils vivent le refus et aussi, toujours, il y en a qui acceptent, parmi ceux qui refusent. Ainsi nous voyons que c'est toujours Dieu qui agit. Nous voyons Paul dans Romains 11, verset 32, dire que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Ça ne se termine pas comme ça. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Dieu enferme, Dieu permet qu'il y ait ce refus, mais Dieu agit en même temps pour faire miséricorde dans ce refus. Et toute l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de ces refus de la parole. Et Dieu utilise ce refus pour se glorifier. Déjà avant Jésus-Christ, pourquoi a-t-il été exilé? Pourquoi les 12 tribus ont-elles été exilées de leur terre? Mais parce qu'elles avaient refusé la parole. Mais que s'est-il passé? Le monde entier entend parler des Juifs qui ont donné la parole de Dieu, qui sont porteurs de la Torah, de la parole de Dieu dans le monde entier. Nous le voyons aussi après Jésus-Christ. Paul s'est heurté à un refus permanent de la part des autorités du peuple juif. Mais il a dit, je vais aller vers les nations. Et il nous dit, ça c'est aussi le plan de Dieu. Par leur désobéissance, les nations sont bénies. Maintenant, nous qui sommes au XXIe siècle, nous avons vu que les nations aussi peuvent être tellement profondément désobéissantes, les nations chrétiennes. Parce que c'est en leur sein, en Europe, qu'il y a eu la Shoah, le génocide des Juifs. Quelle profondeur de notre désobéissance. Est-ce que cela ne va pas entraîner une bénédiction pour Israël, pour les Juifs, par lesquels Dieu va se faire connaître au monde entier? Je voudrais terminer en lisant le témoignage d'un Juif qui s'appelle Benjamin Berger. Quand il était étudiant, il était vraiment en recherche du sens de la vie. Il écrit « J'ignorais s'il existait une vérité absolue. En méditant ses pensées, j'ai eu tout à coup l'impression de ne plus être seul. Certes, je n'ai vu personne, mais je sentais dans la pièce une présence qui n'était pas de ce monde. Quelque chose d'une pureté absolue, d'une lumière extraordinaire. J'étais profondément effrayé, car dans ma vie, je n'avais jamais rien expérimenté de semblable. N'étant pas de nature mystique, mais plutôt un homme très rationnel, je n'étais à ce moment-là guère porté sur les religions et les choses spirituelles. Et ma frayeur en était d'autant plus grande. Un peu plus tard, je sentis quelqu'un s'approcher tout près de moi. Quelqu'un qui, avec une clé, ouvrait une porte très épaisse dans mon cœur. Et alors cette présence, cet amour se déversa simplement en moi. J'étais là, assis, et me mis à pleurer sans savoir pourquoi. Ensuite, j'entendis très clairement la voix de Dieu, une voix intérieure, et qui en même temps remplissait tout l'univers. Le Seigneur me dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et je suis ton Dieu. J'étais ébranlé, toujours assis là, ne sachant que faire. Ensuite, le Seigneur me dit, tu es comme un livre ouvert devant moi et je vois tout de ta vie. Après quelques instants, j'ai reçu un mot que je ne connaissais pas encore à ce moment. Ce mot, c'était Yeshua, Jésus en hébreu. Et instantanément, c'est difficile à expliquer, j'ai su que Jésus était le Messie est la réponse à toutes mes questions, même à celles concernant mon identité juive. Cette expérience a totalement transformé ma vie. Tout d'abord, je me posais la question, suis-je fou ou est-ce réel? Même si je savais dans mon cœur, c'est la vérité, c'est la réalité. Cela ne pouvait pas venir de moi-même, mais seulement de Dieu. Tout était tellement nouveau, d'une dimension inconnue. En entendant le nom de Yeshua, je n'ai pas seulement saisi qu'il est le Messie et le Fils de Dieu, mais aussi qu'il est Dieu. Ce fut comme un éclair et une explosion intérieure. En même temps, je reçus la certitude que Dieu est parfait. Il est la vérité, il n'y en a pas d'autre. Lui seul est la vérité, et cette vérité est absolue, elle n'a pas de limite, elle est parfaite, sans fin. Du coup, toutes choses sont devenues claires pour moi. Ce n'était pas une affaire de théologie ou de pensée, c'était du vécu. Une autre conviction s'est fait jour en moi. Si cette vérité merveilleuse, pleine d'amour qui est Jésus, venait dans ce monde, celui-ci ne l'accepterait pas, à cause de la contradiction profonde entre sa souillure et cette pureté, cette vérité. Le monde la combattrait et essaierait de la détruire. Nous n'avons pas d'autre assurance que dans la croix de Jésus, où se manifeste toujours à nouveau le nom que l'être humain oppose à la parole de Dieu, mais en même temps le oui de Dieu à l'être humain. Amen.